Perché non sa voler bene?
Perché non è vero che una donna possa cambiare un uomo.
Perché non sa voler bene?
أنت لاعب الكرة. هل تعرف أن الكرة محرمة؟
You know, I don't see what there is to be cagey about, Mr. Marlowe. But I don't like your manners.
Well, I'm not crazy about yours. I didn't ask to see you.
Mais recueillons-nous plutôt devant l'image de souffrance de ce beau visage de prédateur des montagnes.
Bonjour à tous et bienvenue dans le 67e numéro de votre émission de cinéma sur Transistor d'Étoiles plein les yeux. Cette semaine, les cinémas ont résonné des punchlines du maître incontesté de la discipline, notre Godard national, avec, en toile de fond, l'effervescence de mai 68. Je veux bien entendu parler du très commenté Le Redoutable, écrit et réalisé par un autre maître du bon mot, Michel Hazanavicius. Aujourd'hui, nous discuterons de ce film à trois, Marie, Anastasia et moi-même. Bonjour à toutes les deux.
Bonjour Occitane.
Bonjour.
Puis en fin d'émission, nous retrouverons Pierre pour un nouvel épisode de Sérivore et nous terminerons par quelques suggestions de sorties pour cette semaine. Alors Le Redoutable d'Hazanavicius dépeint le Godard révolutionnaire de 68 et le Jean-Luc amoureux d'Anne Wiazemski, sa seconde épouse. Le film est avant tout une histoire d'amour contrariée par le tumulte de l'époque et le déclin du couple ballotté entre les âgés et les barricades. Alors on peut peut-être commencer, puisque les critiques ont été très mitigées, par ce que vous en avez pensé.
Moi, ça m'a pas convaincue du tout. C'est un film que je recommande pas spécialement à nos auditeurs et auditrices.
Ah d'accord.
Moi, j'ai beaucoup aimé. Je dirais que c'est un film à voir si vous êtes déprimé et je sais pas, tout vous semblait mal et il y a l'agrégation à passer et tout. Et du coup, c'est pas mal à passer un bon moment.
D'accord.
Et alors, toi
Moi, en fait, je suis très mitigée, exactement. Il me semble que d'un côté, Le Redoutable, donc, qui s'inscrit dans le genre du biopic, est un film donc, sur un réalisateur, et je trouve qu'il tend à une forme de muséification un peu de Godard. C'est un film qui est ultra référencé, qui fait de l'œuvre de Godard une espèce d'immense tableau dans lequel on se promène, un peu comme le Van Gogh de Piala, par exemple. Mais là, le problème, c'est que ce sont des films, et les films deviennent une espèce de pures images lisses, et c'est comme si Godard se retrouvait imprimé sur la pellicule de son propre cinéma. Et ça m'a un petit peu dérangée. Mais d'un autre côté, j'ai trouvé que... Enfin, je ne saurais pas expliquer exactement pourquoi. Et j'ai pas très bien compris pourquoi. Peut-être que, Anastasia, tu vas m'aider. C'est que j'ai été extrêmement touchée par cette histoire d'amour. Voilà.
Justement, je ne vais pas t'aider ici.
Ah bon, tant pis.
Non, mais parce que c'est juste que j'ai trouvé Stacy Mertin un peu... plate, disons, elle n'était pas très présente dans l'histoire, tandis que Wiazemski, elle était, je pense que c'était un personnage assez marquant, et justement ça m'a un peu déçu le fait que l'actrice, elle est toute mignonne et tout, elle est super jolie, et l'histoire elle est jolie, mais justement derrière cette beauté, il n'y a pas grand chose. Mais par contre, pour tout ce que tu disais par rapport au fait que ça soit un peu lisse, moi j'ai trouvé au contraire qu'il y a plusieurs couches, surtout que la caméra nous aide en fait à voir, je sais pas, les scènes où on voit, j'ai beaucoup aimé cette répartition des scènes, quand on passe d'une scène d'une manière très, non pas floue, mais d'une manière très cohérente, Godard quand il, avec Anne, il se promène, et la scène se finit sur la scène où il y avait Anne qui fait quelque chose avec ses chaussures, et après on repasse vers Godard. Après il y a toute cette inscription sur les murs, et on entend le dialogue en même temps qu'on essaie de lire. En même temps, ça empêche un peu, mais moi j'ai trouvé ça pas mal, parce que ce sont des couches qui peut-être essayer d'illustrer le bouleversement de la conscience de Godard à cette époque, je sais pas. Mmh. Du coup, je trouvais que c'était pas trop lisse, mais justement avec plusieurs couches.
Ça, c'est un peu le problème que j'ai avec ce film, c'est que il y a quelques idées de mise en scène qui sont sympas, qui me plaisent bien. Je pense à l'une des scènes de vers la fin, vraiment vers la toute fin, vers la scène de rupture, l'alternance entre voilà Anne qui est dans la salle de bain et Godard qui est dans la chambre. Ça, c'est une bonne idée, quoi. Mais quelques bonnes idées comme ça éparses sur tout un film, ça n'a pas suffi à me convaincre, parce que je trouve que c'est un film qui a quand même énormément de défauts à côté, quoi. Il y a énormément de choses que j'ai pas comprises en termes de clin d'œil gratuit au spectateur, quoi. C'est-à-dire que oui, c'est bien gentil de prendre Louis Garrel au début du film et de lui faire dire oui, les acteurs sont cons, tu demandes de rire, il rit, tu demandes de pleurer, il pleure, tu demandes même de dire à un acteur que les acteurs sont cons, il le fait. gros regard caméra. C'est oui, d'accord, mais d'accord, c'est tellement gros, c'est gratuit, on voit bien que ça n'a pas voulu être fait en subtilité. Mais et alors, quoi, y a plusieurs choses comme ça dans ce film qui me gênent. Pareil sur la nudité, il y a cette scène où Louis Garrel et Stacy Martin sont nus et dissertent sur ah oui, tu penses quoi de la nudité gratuite au cinéma, etc. Oui, bah d'accord, mais une fois qu'on a vu ça, qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi est-ce que c'est si gros? Vraiment, j'ai une espèce d'incompréhension comme ça par rapport à certaines grosses ficelles très gratuites du film, et ça m'a vraiment dérangée, quoi.
Bah, c'est ce qui me semble, enfin ça me semble se recouper avec ce que je disais sur la manière de faire entrer au musée Godard et de prendre des choses de son cinéma, bah, le regard caméra, certaines transgressions telles que la nudité ou des choses comme ça, et puis des plans entiers qui sont complètement repris. Et il me semble que c'est une manière de l'encadrer en quelque sorte. Et alors, je me rappelle en cinéma, en prépa l'année dernière, on avait vu une citation qu'il avait de Godard, qu'il avait sortie à sa chef opératrice Caroline Champetier. Il lui avait dit « La différence entre les autres et moi, c'est que moi je cadre alors que les autres encadrent ». Et bon, c'est vraiment une phrase à la Godard, mais il me semble que c'est ce que fait Azanavicius un peu là-dedans, c'est-à-dire qu'il va le mettre dans un cadre quasiment... comment dire, un cadre pictural à la limite, enfin dans la manière du dans le traitement des couleurs, le traitement des dialogues et tout ça, et tout paraît parfaitement à sa place, et on a l'impression d'être dans une muséographie qu'une mise en scène de cinéma, il me semble.
Ouais. Mais je pense que c'est oui, justement, c'est la référence au film de Godard, mais il y a aussi, j'ai lu dans une des critiques que en fait ce film il désacralise Godard, ce que je trouve assez vrai, parce que finalement on voit, il y avait quelques références dans le film que voilà, c'est Godard homme, genre humain, qui est assez con dans ses relations, par exemple. Il est pas très supportable, disons. Et c'est justement, c'est un peu, je trouvais que c'était de l'ironie sur sa personnalité, de ce qu'il fait, sur son cinéma aussi, par cette, je sais pas, ses essais d'imiter la façon de faire les films à la Godard. Et je trouvais que c'était un peu, voilà, c'était l'enjeu, c'était de désacraliser et de présenter juste un humain perdu dans ses pensées esthétiques
et politiques. C'est vrai que Aznavicius a quand même réussi le tour de force de nous attendrir sur Godard dans ce film, il me semble. Enfin, il m'a semblé...
Ouais, je suis pas d'accord là-dessus, au sens où... Bah, en fait, ce couple d'acteurs-actrices, vraiment, je les ai trouvés attachants à aucun moment. Enfin, d'accord. Ni lui, ni elle... ils me sont restés très extérieurs, très antipathiques. Lui, il est complètement barré, elle est complètement bourgeoise. À aucun moment, on a réussi à me faire croire à leur couple, et à aucun moment, on a réussi à me faire croire qu'ils étaient sympathiques et que je pouvais m'attacher à eux. Et ça reste comme ça pendant tout le film, et à la fin, bon, bah, ça finit, je me sépare d'eux, je m'en vais, je sors du cinéma. Et ça reste comme ça, quoi.
D'accord. Mais c'est vrai que Godard passe pas mal pour un fou dans ce film, alors qu'il me semble que dans le contexte de l'époque, enfin le désir révolutionnaire et vraiment cet élan révolutionnaire peut-être paraissait moins délirant, il me semble. Mais c'est vrai qu'il le fait un peu passer pour un fou tout ça, mais malgré tout, je sais pas, je trouve qu'il y a quelque chose qui tient dans cette histoire d'amour, quelque chose qui fonctionne, mais voilà, comme j'ai dit au début, je saurais vraiment pas du tout expliquer pourquoi.
Un autre point qui m'a un peu dérangé dans ce film, c'est le problème du ton abordé, enfin le ton général du film. Qu'est-ce que Azanavicius veut en faire? On parle depuis tout à l'heure, on a dit c'est un biopic, on a dit c'est un hommage, mais je trouve que ça ne prend pas vraiment position sur ce que c'est. Est-ce qu'on fait un pastiche? Est-ce qu'on fait plutôt une parodie? Est-ce qu'on fait un documentaire? Est-ce qu'on adapte de manière plus ou moins fictionnelle un livre écrit par Anne elle-même? Et le film ne trouve jamais vraiment sa voie, j'ai l'impression, entre toutes ces différentes options. Si on réfléchit à la place de l'humour, par exemple, dans le film, moi, bon, alors d'accord, ok, c'est juste la pub qu'il y avait aux Lumières Terreau, tu vois, mais on me disait une comédie romantique sous mai 68 et tout. Et bah, non, enfin, c'est pas un film qui m'a fait immensément rire. Bon, parfois, ça m'a tiré un petit sourire, etc. Bon, il y a un peu de comique de mots qui marche parfois assez bien. Côté, il y a des trucs que j'ai trouvé un peu lourds, enfin, le coup des lunettes de Godard qui sont cassées à chaque fois, ça s'épuise assez vite. Et c'est un film dans l'ensemble que j'ai pas trouvé hyper hyper drôle finalement, alors que ça essaye plein de fois et je trouve que c'est souvent assez raté. Je sais pas ce que vous en pensez, vous.
Ouais, peut-être.
Moi j'ai rigolé.
Oui
mais après oui, c'est vrai que c'était assez donné, quoi. C'était pas quelque chose, c'était pas de l'humour super intelligente, mais après je pensais que c'était encore de l'ironie du réalisateur sur l'humour même. Et voilà, il a essayé de présenter des choses, bah, il a fait une blague. Moi, j'ai eu l'impression qu'il s'est amusé pas mal avec ce film et il a mis un peu, bah, c'était du travail bien sûr, mais il a mis un peu des choses qui lui faisaient plaisir, je sais pas.
Bon, peut-être que le Jean-Luc Godard original est plus drôle que le Louis Garrel.
Ouais, alors d'ailleurs, j'ai découvert que Godard était toujours vivant, à ma grande surprise.
Oui. D'ailleurs, on le salue. Oui.
En espérant qu'il va voir ou pas ce film.
Ouais, c'est ça, parce que finalement, c'est un de ces films où j'ai trouvé que la bande-annonce était mieux montée et plus drôle que le film. Et ça, c'est toujours une source de frustration extrême.
Je trouve aussi. Finalement, un film qui divise et qui mérite peut-être du coup d'être vu. Alors, il est toujours en salle actuellement dans vos cinémas préférés lyonnais et chez nos partenaires des Cinémas Lumière. Et maintenant, nous passons au nouvel épisode de Cérivore présenté par Pierre. Bonjour Pierre.
Bonjour Occitane.
I'm sorry, are you addressing me? Because your authority is not recognized in Fort Kickass.
You've just crossed over into the Twilight Zone.
Where is Jessica Hyde?
Jim. James. Timothy.
This is the warship Rocinante.
I'm Ron Swanson.
In the 90s, I was in a very famous TV show.
Alors cette semaine, le Cérivore va s'intéresser à la série Danger 5. C'est une série australienne distribuée par SBS qui est composée de 2 saisons avec un total de 13 épisodes de 25 minutes chacun. La première saison est parue en 2012 et la seconde en 2015 suite à quelques soucis techniques et tout, et créatifs aussi. Alors c'est une série qui est créée par Dario Russo et David Ashby, deux humoristes australiens du coup, et on y trouve des acteurs australiens totalement inconnus de ma part et j'imagine de la part de tout le monde ailleurs qu'en Australie, quoi. Alors du coup, le principe de cette série, c'est un peu spécial, voire très spécial, et c'est ça qui fait vraiment tout le plaisir de cette série. Alors en fait, c'est une série d'aventures pulp pendant la Deuxième Guerre mondiale, style 60s sous Exta. Voilà. Mais en vrai, c'est vraiment très drôle si on aime bien les, non pas les clichés, mais enfin si on aime bien les clichés, si on aime bien le kitsch, si on aime bien retourner dans cette ambiance un peu pulp et folle des années 60, et ben on retrouve tout ce qu'il y a et c'est vraiment très très drôle. Alors l'histoire, bah, c'est un groupe d'agents alliés pendant la Deuxième Guerre mondiale, donc 2 Anglais totalement coincés, beaux gosses, etc. Un Américain gros bras qui boit du whisky tout le temps, qui lit des magazines sur les armes et qui aime tout faire exploser et tirer partout, une Russe femme forte et fatale qui passe son temps à parler en russe mais tous les autres personnages la comprennent normalement, et c'est un des points assez rigolos de cette série, c'est que tout le monde parle dans sa langue natale avec des sous-titres et tout le monde semble comprendre tout le monde, du coup c'est tout à fait normal, ça rajoute à la touche d'absurdité. Et bien sûr, l'autre personnage, le cinquième, et bien c'est Pierre, un Français moustachu qui connaît tout le monde, drague tout le monde et qui fait des cocktails tout le temps. C'est un running gag, notamment lorsque un de ses amis meurt ou un personnage qu'il a appris à apprécier pendant l'épisode meurt, et bien ce personnage mourant donne la recette parfaite d'un cocktail. Il me reste encore à les essayer tous. Alors, cette petite unité, ce groupe d'agents alliés combattent Hitler, et Hitler est en fait un personnage récurrent que l'on croise dans tous les épisodes, ainsi que les personnages qui croisent Hitler. Ça finit toujours en fusillade, où il mitraille avec des milliers de balles sur Hitler, mais Hitler parvient toujours à s'échapper en se jetant par une fenêtre. Du coup, voilà, toujours ce côté vraiment farfelu et délire. Et surtout, ils essayent d'arrêter les plans, encore une fois totalement farfelus de Hitler, des plans assez gigantesques. Par exemple, le pilote de la série, c'est Hitler qui décide de prendre diamants noirs d'Afrique, les réduire en poudre, les faire aspirer par les plus belles femmes possibles, et ces femmes deviennent totalement pare-balles et du coup deviennent invincibles. Ou alors il décide de créer des hybrides dinosaures nazis après une découverte assez folle en Antarctique où justement des dinosaures étaient encore existants. Ou alors par exemple faire disparaître le Japon en utilisant des super soldats. Bref, c'est vraiment du gros délire et c'est ça qui est délicieux avec cette série. Il n'y a pas beaucoup d'épisodes mais chacun est vraiment bien construit, l'histoire est plutôt bien menée. C'est très classique, bien sûr, mais ce n'est pas du stéréotype, c'est véritablement de la parodie. Mine de rien, même en connaissant tous les clichés du genre, on n'est pas on connaît pas forcément la suite, ils arrivent à nous étonner un petit peu. Par exemple, un épisode où ils fêtent l'anniversaire d'Hitler, et du coup, c'est une grande célébration avec des danseuses indiennes, etc. Et bref, c'est du gros délire, quoi. Et aussi, ce qui est très drôle, c'est qu'il joue le jeu du délire des années 60 à fond, avec énormément d'effets à l'ancienne. Je m'explique, en gros, c'est des maquettes, et ils les font exploser avec des pétards. Et du coup, ça donne vraiment des trucs très drôles, où on mélange des événements qui se passent dans un véritable décor, avec de véritables acteurs, etc. Et tout d'un coup, on a un plan extérieur d'une maison en carton, avec une petite maquette de voiture qui bouge pas posée devant, et tout d'un coup, y a un pétard qui explose, le truc prend feu, etc. Du coup, ça donne un style à la série, sans tomber totalement dans le ridicule. Surtout que... il y a aussi un autre point assez bizarre, j'en ai déjà parlé la semaine dernière, enfin vous allez croire que c'est un fétiche de ma part, mais non, ce n'est pas le cas. Il y a à nouveau des animaux anthropomorphes dans cette série. Cette fois-ci, ce sont des acteurs humains qui du coup portent des costumes, des têtes en plastique de Triceratops par exemple, ce genre de choses bien sûr. Et c'est tout à fait normal dans la diégèse de la série d'avoir ces animaux anthropomorphes. Par exemple, le chef de l'unité est un aigle américain. Voilà, symbole de la toute-puissance américaine et de la CIA, bien sûr. Et du coup, c'est tout à fait normal et ça rajoute encore une fois à cet univers extrêmement farfelu. Alors, il y a eu une saison 2, du coup, qui est parue en 2015. Je vous avoue que je ne l'ai pas regardée encore, mais cette saison 2 a décidé de prendre un autre point de vue, et cette fois-ci de se pencher dans le kitsch des années 80. Du coup, je ne l'ai pas vue encore, je ne peux pas vous donner mon avis, mais je vais essayer de la trouver pour peut-être vous en parler plus tard.
Ben, merci Pierre, à la semaine prochaine! Et maintenant, quelques idées de sortie. Alors d'abord, on va commencer par Téhéran Tabou, qui sort le 4 octobre, un film de Ali Sozandeh. Téhéran, donc, c'est une société schizophrène dans laquelle le sexe, la corruption, la prostitution et la drogue coexistent avec les interdits religieux. Dans cette métropole grouillante, trois femmes de caractère et un jeune musicien tentent de s'émanciper en brisant les tabous.
Oui, et juste cette semaine aussi, le 7 octobre, dans le cadre toujours de la rétrospective d'Andrei Tarkovski, vous avez la possibilité de voir le film Solaris, un de ses plus connus films peut-être. Il s'agit donc de Kelvin, c'est un ingénieur russe qui a été envoyé sur la base spatiale et où il est confronté à une mystérieuse forme de vie. D'après l'annonce de l'Institut Lumière, Tarkovski s'attaque dans ce film à la science-fiction, mais s'intéresse avant tout aux enjeux humains et moraux du récit. Il se place à la question du devoir humain par rapport à nos proches et à l'humanité tout entière.
Ensuite, en attendant Wong Kar-wai pour son festival, comme nous l'annonce l'Institut Lumière, on a la possibilité de revoir quelques-uns des films de ce réalisateur chinois, notamment le 8 octobre, Les Cendres du Temps. Alors c'est un film qui raconte l'histoire de Feng, élevé par son frère, qui a toujours eu pour ambition de devenir maître dans l'art de manier le sabre. Entre la femme qu'il aime et les arts martiaux, il choisit ces derniers. Elle choisira d'épouser son frère, Feng s'exile alors dans le désert, où depuis son auberge, il engage des tueurs afin d'exécuter des contrats. Parmi eux, Yaoshi, qu'il voit revenir au fil des saisons. Yaoshi a jadis aimé la femme de son meilleur ami, il a aussi promis le mariage à la sœur de Yang, mais n'a jamais tenu son engagement. Et voilà, d'étoiles plein les yeux, c'est fini pour aujourd'hui. À la semaine prochaine pour de nouvelles aventures cinématographiques.